1% à 3810 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du quintet à Vincennes, pour gagner, il fallait jouer le 8, le 4, le 15, le 5 et le 11. 8, 4, 15, 5 et 11. Je vous rappelle que le 10 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinas. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 décembre 1944, il y a 60 ans jour pour jour, la dernière offensive allemande de la guerre, la bataille des Ardennes. Soldats du front ouest, votre heure a sonné. De puissantes armées ont déclenché l'offensive contre les Anglo-Américains. Vous le sentez vous-même, nous jouons le tout pour le tout. Maréchal von Rundstedt, 16 décembre 1944. D'histoire. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 16 décembre 1944, à 6h30 du matin, commençait la dernière grande offensive allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Cachée quelque part dans la forêt des Ardennes, entre Liège et le Luxembourg, sur un front de 135 km, les 200 000 hommes et les 800 chars des généraux Sepp Dietrich, von Manteuffel et Brandenberger devaient couper en deux les forces anglo-américaines devant lesquelles ils reculaient depuis le débarquement en Normandie 6 mois plus tôt. Les alliés étaient d'ailleurs si sûrs d'eux qu'ils avaient concentré leurs effectifs au nord, autour d'Anvers, et au sud, en face de la Sarre, où Patton devait attaquer quelques jours plus tard. Si bien qu'entre les deux, jusqu'au 16 décembre 1944, la forêt des Ardennes était la partie la plus calme du front. L'endroit précisément qu'avait choisi Hitler pour contre-attaquer. Jusqu'au bout, malgré les mises en garde de ses généraux, malgré la progression des alliés à l'est et à l'ouest, le maître de l'Allemagne aura voulu croire que sur un coup de dé, il pouvait échapper à son destin.
Malgré la crise actuelle, nous gardons notre volonté inébranlable. Ce n'est pas l'Asie qui vaincra. Mais l'Europe, et à sa tête, cette nation qui depuis 1500 ans est à l'avant-poste de l'Europe, et qui le sera pour toujours, notre Reich, la nation allemande.
Laurent Henninger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chargé de mission au Centre d'études d'histoire de la défense, spécialiste de stratégie militaire. Alors, il y a 60 ans, jour pour jour, Hitler déclenchait une des plus grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale, la dernière offensive d'une armée allemande qui reculait depuis Stalingrad, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Et ce jour-là, donc, il demande à trois de ses armées de faire demi-tour, d'attaquer les alliés en Belgique, dans les Ardennes, et à un endroit où personne ne l'attendait. C'était une surprise énorme pour les alliés, ça, Laurent Henninger.
C'est une surprise énorme, effectivement, parce que, à mon avis, à bon droit, il est parfaitement normal que les chefs alliés ne s'attendent pas à ça, parce que de toute façon, d'un point de vue stratégique, l'Allemagne était virtuellement vaincue, il ne faut pas se faire d'illusions. Et ils étaient focalisés sur la préparation de leur offensive à eux, en direction de l'Allemagne, et vers le franchissement du Rhin. Donc, ils ne voyaient pas ça venir.
Et pourtant, c'est quand même le lieu, l'endroit, à peu de choses près, où Hitler, 4 ans plus tôt, avait percé les lignes pour attaquer la France en mai 40.
Tout à fait, il essayait vraisemblablement de refaire à peu près un coup stratégique similaire à celui qu'il avait fait en mai 1940. Cette fois-ci, cette offensive était plutôt dirigée non pas contre en direction de la Manche, mais en direction de la ville et surtout du port de Anvers. Qu'ils voulaient reprendre aux alliés, parce que ce port gigantesque était indispensable aux alliés pour amener leur logistique sur leur ligne.
En tout cas, il attaque à un endroit faible, très faible du front, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel des forces alliées, anglo-canadiennes et américaines, se trouve au nord ou au sud, les Français encore plus au sud en Alsace, et là, il y a que 75 000 Américains qui se trouvent en face de trois armées allemandes, quand même, environ 200 000 hommes, les Américains étant donc plutôt au sud, avec Patton. Au nord, il y a les Anglo-Canadiens avec Montgomery à Anvers, hein, qui est une ville stratégique. Et ces armées allemandes ont été acheminées dans le plus grand secret. Il y avait environ 200 000 hommes, mais c'était dans le plus grand secret. C'est pour ça aussi qu'il y a eu la surprise.
Oui, alors, le problème de cet hyper secret allemand, c'est que c'est une arme à double tranchant pour les Allemands. C'est-à-dire qu'effectivement, les systèmes de renseignement alliés, entre autres la célèbre machine de décryptage Ultra, n'a pas pu décrypter de messages radio, puisqu'il n'y en avait pas. Mais l'inconvénient pour les Allemands, c'est qu'il y a eu trop de secrets, donc il n'y avait que deux ou trois généraux qui étaient vraiment au courant de ce qui allait se passer, et toute la chaîne de commandement, depuis les généraux intermédiaires jusqu'au... ne savaient rien, ont été informés la veille, et du coup, en cours d'offensive, ne pouvaient pas prendre d'initiative, parce qu'ils savaient pas où on voulait les envoyer.
Alors cette offensive, vous le disiez tout à l'heure, c'est à peu près au fond comme en 40, couper les armées alliées, coincer au nord les Anglais de Montgomery, les Anglo-Canadiens de Montgomery, un peu comme autrefois en 40 les Allemands l'avaient fait avec les Anglais à Dunkerque,
voilà. Hein,
et contraindre à la paix, au fond, décourager les alliés, au fond, pour qu'ils signent une paix séparée avec l'idée pour Hitler de se retourner ensuite contre Staline. Il rêvait un peu quand même.
Oui, enfin c'est le rêve de toute façon, je pense, hein, de Hitler depuis le début de la guerre. Une fois la France mise à bas, Hitler n'a pas vraiment envie de rentrer. Je pense, hein, c'est une analyse qui peut prêter à débat, de rentrer véritablement en guerre avec les Anglo-Saxons. Mais là, il cherche effectivement à faire rembarquer les Anglais dans une sorte de nouveau Dunkerque. Il cherche à briser le moral américain. Et là, il sous-estime complètement, il est obsédé par son idéologie de mépris du peuple et de la civilisation américaine. Il sous-estime complètement la capacité de résistance et la volonté de vaincre de l'Amérique, aussi bien de ses dirigeants que des GIs. Et puis aussi, il y a un autre élément qui est peu écrit, c'est que il cherche à abattre l'Amérique. Parce que Hitler, faut pas oublier que c'est un homme de 14-18, qui a encore plein de préjugés et de visions du monde qui sont dépassées, hein, dans les années 40. Et on est en décembre 44, la France est entièrement libérée. Et Hitler a une obsession, enfin parmi d'autres, c'est que la France, une fois libérée, puisse remobiliser en masse, remettre en ligne une immense armée, et que l'Allemagne ait à affronter une autre armée française comme celle de 14-18.
Parce qu'il y avait quand même, faut rappeler, de l'Âtre, au sud de l'Âtre, Leclerc qui était à Strasbourg, etc. au même moment, mais effectivement pas une des forces aussi considérables qu'en 40. Alors, Hitler a quand même un allié, hein, c'est Le Brouillard, qui est très présent dans les Ardennes à cette époque. Le nom de code d'ailleurs de l'opération est Herbstnebel, c'est-à-dire brouillard d'automne, qui est très précieux pour Hitler, d'abord parce qu'il empêche bien sûr l'intervention de l'aviation alliée, très supérieure à son aviation à lui, et puis aussi qui empêche des reconnaissances aériennes qui aurait permis de voir cette armée allemande qui se massait dans les Ardennes. Et c'est donc la surprise totale pour les Américains lorsque le 16 décembre 1944, ils voient sortir de la forêt des Ardennes les divisions blindées allemandes.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces engins ?
Tenez-vous prêts ! Section en position, tenez-vous prêts !
Les éléments de la 1ère et 6ème division de Panzer SS ont fait une percée dans la forêt des Ardennes. Ils ont anéanti le 28e d'infanterie et quelques éléments du 4e. Tous les officiers doivent se présenter à leur QG respectif. Les permissions sont annulées.
Non !
Les hommes de troupes iront se signaler à leur chef de bataillon.
Gallant American units, surrounded and cut off, fought in a sea of enemy armor. Anti-aircraft guns were fired point blank as anti-tank guns until they were overrun.
Et après un extrait de la série Band of Brothers, on entend en ce moment le premier reportage américain de la bataille des Ardennes, qui commençait donc le 16 décembre 44, il y a 60 ans, jour pour jour, dans une confusion totale. La surprise, on l'a dit, Laurent Henninger, était totale, et d'ailleurs les Américains vont subir là une défaite comme ils n'en avaient pas vu depuis les Philippines, depuis Bataan.
Tout à fait, c'est... Enfin si, ils avaient...
Dans un premier temps. Hein.
Dans un premier temps, pendant environ deux semaines, l'armée américaine va subir des revers assez inquiétants, ça c'est vrai, qui vont déclencher même un début de panique, au moins politique à Paris. Certains politiciens parisiens se disent ça y est, les Allemands vont revenir, ils vont reprendre la France. Bon, ça c'est une panique qui va pas durer très longtemps. Mais ils avaient déjà subi quelques semaines auparavant une autre défaite. Enfin, c'était surtout les Britanniques, mais les Américains étaient partie prenante à Arnhem, dans leur première tentative pour franchir le Rhin, aux Pays-Bas.
Alors, il y a aussi une confusion qui est entretenue par une opération. Alors, c'est une toute petite unité, une poignée d'Allemands, mais d'Allemands qui parlaient l'anglais, qui étaient déguisés en GI, qui ont été parachutés derrière les lignes, et qui étaient chargés de se faire passer pour des soldats américains, et de semer une pagaille pas possible. Ils devaient prendre des têtes de pont sur la Meuse, ça se fera pas. Mais par exemple, ils indiquaient de mauvaise direction aux renforts qui arrivaient, aux renforts américains qui arrivaient. Ça a fait assez peur, ça, je crois, Laurent Henninger. C'était un commando dirigé par Skorzeny, qui était l'homme à tout faire, hein, celui qui avait libéré Mussolini, laissé évader Mussolini du Grand Sasso. C'était un type assez étonnant, et c'était vraiment, cette unité était extraordinaire.
Oui, c'est sûr que d'un point de vue roman d'aventure, c'est extraordinaire. Ça a eu des effets finalement assez faibles. Il y a quelques dizaines de soldats allemands, pour certains, même pas pour tous, parlant l'anglais avec l'accent américain, entraînés à singer les manières du GI, à ouvrir les paquets de camels d'une certaine façon, à siffler au lieu d'applaudir, à conduire la Jeep de façon nonchalante, qui était censé connaître également les résultats des équipes dans les matchs de baseball et de football américain, pour pouvoir passer pour d'authentiques citoyens américains, ont été envoyés pour effectivement faire du sabotage aussi, faire sauter des dépôts, etc., etc. Pour la plupart d'entre eux, ils ont été pris. Ils ont produit un peu de confusion dans les lignes américaines au début. Il y a eu un peu de panique. Il y a eu d'authentiques unités américaines ou d'authentiques soldats américains qui ont été pris pour des...
Oui, qui se sont demandés, on se posait des questions. Chacun se méfiait de tout le monde.
Voilà. Ça a duré quelques jours. C'est vrai que d'un point de vue romanesque, c'est assez rigolo. Mais ils sont assez vite fait prendre et ils ont tous été fusillés.
Alors, beaucoup moins romanesque, en revanche, c'est ce qui se passe au nord, parce que là, l'armée de Sepp Dietrich, qui est une armée essentiellement composé de division Panzer SS piétine, et là il va y avoir des massacres, parce que il y a notamment un lieutenant-colonel Piper qui, passant dans certains villages, va fusiller, exécuter des soldats américains. C'est un crime de guerre, et pire encore, va tuer des civils belges, notamment dans des villages comme Stavelot, comme Trois-Ponts par exemple, où il y a eu des morts. Il y a eu au total, je crois, 900 morts. Là, c'est des crimes de guerre.
Tout à fait, ce sont d'authentiques crimes de guerre. Bon, d'une part, c'était contre des civils belges, parce que les Allemands voulaient se venger de ce qui s'était passé quelques mois auparavant, lors de la libération des Ardennes par les Alliés, troupes alliées qui avaient été alors aidées par des maquis belges, donc il y a des représailles, et effectivement, des soldats américains qui sont assassinés par des SS. Alors, c'est sûr que ces unités SS étaient imbibées, si j'ose dire, d'idéologie nazie, méprisaient les Américains, d'autant plus qu'on leur avait dit que pour eux, les Américains sont tous des nègres et des juifs, donc ils n'avaient aucune raison de se priver. Mais c'est vrai aussi, et c'est pas du tout pour les défendre, loin de là, parce qu'un crime de guerre reste un crime de guerre, qu'ils étaient dans une telle confusion logistique, si j'ose dire, qu'ils ne voulaient pas s'encombrer de prisonniers. Et ça, je dois dire que c'est une attitude qui est hélas pratiquée par nombre d'armées dans beaucoup de guerres.
Alors, cela dit, ça c'est au nord, ils piétinent, d'autant plus qu'il n'y a plus d'essence. On y reviendra d'ailleurs, Laurent Henninger, sur cette absence d'essence, parce que ça aussi, c'était la logistique, vous disiez ça, c'était le manque d'essence qui a arrêté, notamment ce fameux, tristement célèbre colonel Piper. Tandis que au centre du front, eh bien, le général von Manteuffel, lui, fonce sur une ville qui a été vraiment le symbole de cette bataille des Ardennes, la ville de Bastogne, défendue par le général McAuliffe, qui le 22 décembre refusait de se rendre aux Allemands qui l'encerclaient. Un des épisodes les plus célèbres de cette bataille des Ardennes, que l'on retrouve dans la formidable série américaine de Tom Hanks et Steven Spielberg, Bands of Brothers.
Messieurs, le général McAuliffe tient à vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Qu'y a-t-il de joyeux, me demanderez-vous? Ceci. Nous avons stoppé net toute progression venant vers nous du nord à l'est et du sud à l'ouest. Il y a deux jours, le commandant des forces allemandes a exigé notre honorable reddition. pour préserver les troupes américaines encerclées d'une élimination totale. Le commandant des forces allemandes a reçu la réponse suivante. Au commandant des forces allemandes, Teklou. Joyeux Noël à tous et que Dieu vous bénisse.
Et c'était Jingle Bells, bien sûr, on comprend pourquoi Jingle Bells, on est à la veille de Noël, et c'était Glenn Miller, et l'on sait moins pourquoi Anne Kobilac a choisi Glenn Miller, c'est tout simplement parce qu'il est mort le 16 décembre, disparu dans un accident d'avion, le 16 décembre 44, au moment précis où commençait cette bataille des Ardennes, Laurent Henninger, et 6 jours avant la fameuse réponse historique de McAuliffe défendant Bastogne, des clous en anglais, il disait nuts en fait, c'est l'équivalent au fond du merde de Cambronne à Waterloo, Bastogne qu'il a défendu avec des éléments, les seuls renforts dont disposait Eisenhower, des éléments de la célèbre 101e division parachutiste, celle qui avait sauté sur Sainte-Mère-Église 6 mois plus tôt.
Tout à fait, effectivement, c'est considéré encore aujourd'hui la défense de cette petite ville belge de Bastogne dans les Ardennes par la 101e division américaine comme l'un des grands faits d'armes de l'histoire, de toute l'histoire de l'armée de terre américaine, et à juste titre à mon sens. Cette unité parachutiste était, comme toutes les unités des parachutistes, c'est de l'infanterie légère, les parachutistes. C'est ça qu'on a toujours tendance à oublier. Par conséquent, ce sont des unités qui manquent sérieusement d'armement lourd, qui ont très peu de chars, très peu d'artillerie, etc. Et face à des divisions lourdes, blindées, ce sont des unités, les parachutistes, qui sont considérablement handicapés. Alors, ils sont retranchés dans cette ville et ils ont tenu bon.
Et ils étaient au repos, faut le rappeler, après la bataille d'Arnhem aussi à laquelle ils avaient participé. Ils étaient au repos à Reims. Il y avait que 2 divisions, je crois, de renforts. Eisenhower était tellement sûr de lui qu'il n'y avait pas de renforts prévus et qu'on les a ramenés de Reims. Ils avaient pratiquement rien du tout avec eux. On les a amenés à Bastogne et là, il pelait de froid. Ils avaient même rien pour se vêtir. Et n'oublions pas, il y avait toujours la brume. Et justement, le 23 décembre, le lendemain du fameux nuts du général McAuliffe, ils reçoivent des colis parce que le soleil s'étant dégagé, les avions américains peuvent enfin entrer en action, Laurent Henninger.
Tout à fait. L'aviation américaine qui était extrêmement importante dans cette Seconde Guerre mondiale. Tout le monde pense effectivement aux avions de transport capables de larguer des parachutistes ou des colis ou des containers. Mais où tout le monde pense également à l'aviation de bombardement stratégique qui au même moment pilonnait les villes allemandes. Mais il convient également de rappeler l'extrême importance de ce qu'on appelle l'aviation d'appui tactique, c'est-à-dire ces chasseurs bombardiers à court rayon d'action qui fonctionnent comme une véritable artillerie volante et qui en liaison étroite avec les unités au sol et qui est un élément décisif de la supériorité américaine dans cette guerre.
Et à partir de ce moment-là, les forces allemandes vont piétiner, l'armée allemande contourne Bastogne, encercle Bastogne, atteint son point culminant, d'ailleurs le 22 décembre, sur la Meuse, tout près d'ailleurs de Dinan, où les attendent la 29e brigade blindée britannique.
Je vous parle d'une maison fortifiée sur la rive occidentale de la Meuse et je regarde de l'autre côté de la rivière vers Venlo, qui est aux mains des Allemands. Entre nous et les Allemands, moins de 200 mètres. En ce moment, tout est parfaitement calme. Pas un souffle dans les branches des arbres. Mais là-bas... Maintenant, juste au-dessus de ma tête, tout s'illumine. Les Allemands tirent.
Et c'était un reportage de Chester Wilmot le 22 décembre 1944 devant les éléments les plus avancés de l'armée allemande qui n'ira pas plus loin, Laurent Henninger. Là, on est à la limite de la Meuse, on est même à quelques kilomètres de la Meuse.
On est à environ 4 ou 5 kilomètres de la Meuse. Les Allemands sont pas allés plus loin. De toute façon, vraisemblablement, ils ne pouvaient pas aller plus loin. L'armée allemande manquait sérieusement de matériel, manquait d'hommes, une bonne partie des troupes, des nombreuses troupes qui avaient été rassemblées par Hitler pour monter cette offensive des Ardennes, cette contre-offensive l'offensive des Ardennes étaient des troupes d'assez mauvaise qualité, des jeunes ou des vieillards manquant de formation. Et de toute façon, la machine américaine, la machine allemande, pardon, ne pouvait plus produire suffisamment de matériel pour contrer la puissance industrielle américaine. Mais surtout, les Allemands manquaient sérieusement d'essence. Ils n'avaient pas assez d'essence pour leur division mécanisée et blindée.
Alors comment comptait-il aller comme ça jusqu'à Anvers?
Et ils comptaient, précisément, c'est pour ça qu'effectivement on parle à juste titre de dernier coup de dé de Hitler, c'est qu'ils comptaient prendre des dépôts d'essence, de carburant américain. Ils comptaient s'en emparer. Et ils ont failli s'en emparer, entre autres dans une petite ville belge qu'ils ont réussi à prendre. Eh bien, ils ont pas vu qu'il y avait le dépôt de carburant qui était à quelques centaines de mètres du village. Bon, plein de choses comme ça. Et je pense qu'on ne peut pas fonder de grandes décisions et de grandes actions stratégiques sur des coups de poker. Il y a des chances qu'on puisse prendre des dépôts de carburant. Et effectivement, ils l'ont payé très cher.
En tout cas, le 22 décembre, ils sont à l'extrême limite de leur avancée. Ils ont formé ce que les Américains, ils appellent ça comme ça, la bataille du Bulge.
Le saillant.
Ils appellent un saillant, le Bulge. Et un saillant que les Américains vont reconquérir lentement avec beaucoup de bombardements. Maintenant que le ciel est dégagé, toutes les villes de la région, ça a été aussi dramatique, hein, ont été bombardées. Oufalis, par exemple, Stavelot ont été très très sérieusement bombardés parce que, évidemment, les Allemands étaient encore dans ces villes-là.
Tout à fait, mais là effectivement la puissance militaire américaine a donné tout ce qu'elle pouvait. Et effectivement, ça c'est un point qui est connu et encore controversé aujourd'hui, c'est que trop souvent pendant cette Seconde Guerre mondiale, les Américains utilisaient aveuglément la puissance aérienne, y compris sur des positions. Alors sur des positions ennemies, mais sur lesquelles il y avait également beaucoup de civils de nations censées être alliées. Ça, on l'avait déjà vu en Normandie.
Et les Américains qui vont mettre un mois à chasser les Allemands de ce bulge, de ce saillant, jusqu'à leur position de départ du 16 décembre 1944, tout près de l'endroit où le 26 janvier 1945 se trouve un des plus célèbres reporters français de l'époque, Pierre Crenès.
Devant Clairvaux, le 26 janvier 1945. Une bataille est actuellement livré aux abords immédiats de Clairvaux et mène dans les faubourgs de la ville à 23 km à l'est de Bastogne, à mi-distance de Bastogne et d'Oufalis. Clairvaux est le dernier bastion d'une ligne nord-sud, c'est cette dernière ligne que l'ennemi essaya de tenir en se retirant du saillant des Ardennes. Si les Américains atteignent la rivière Our, éloignés maintenant de 4 km environ, ils auront ramené les Allemands à leur point de départ du 16 décembre 1944. D'après les communiqués, les Allemands reculent à peu près sur toute la longueur du front. Voici que le pointeur prépare sa pièce.
Et c'était Pierre Crenès à Clairvaux le 26 janvier 45. Alors à ce moment-là, Hitler, on peut le dire, a perdu la bataille des Ardennes. Les Allemands se retrouvent pratiquement sur leur position de départ du 16 décembre. Ils vont lancer, me dites-vous, une dernière offensive qui va provoquer un problème d'ailleurs avec la France, Laurent Henninger.
C'est-à-dire que tout au long de cette affaire des mois de décembre au janvier de l'hiver 44-45, il va se produire l'un de ces nombreux incidents politico-stratégiques entre les Français et les Américains, c'est-à-dire entre De Gaulle et Eisenhower, puisque au mois de décembre, quand les Américains subissent les premiers éléments de la contre-offensive allemande, Eisenhower raisonne de façon strictement militaire, et il veut donc faire reculer l'intégralité de son dispositif. Et donc, laisser les Allemands reprendre l'Alsace et Strasbourg, qui vient d'être libérée au mois de novembre, ville ô combien symbole pour les Français. Et là, De Gaulle dit non, il est hors de question pour des raisons politiques. De Gaulle dit à Eisenhower, rencontre Eisenhower, lui dit, j'ai bien conscience des raisons militaires, mais on n'est pas au Kriegsspiel. Il y a aussi dans cette guerre, comme dans toutes les guerres d'ailleurs, des considérations politiques à prendre en compte et morales. Il est hors de question de reprendre Strasbourg. Alors il y a une petite partie de bras de fer entre De Gaulle et Eisenhower. Eisenhower menace De Gaulle de supprimer le ravitaillement à la première armée française du général Delattre. De Gaulle tient bon et finalement les Français et De Gaulle dit, bah si s'il le faut, je retire l'armée française du général Delattre du commandement américain et on tiendra, quelles que soient vos décisions, vous, messieurs les Américains, on tiendra l'Alsace et Strasbourg jusqu'au bout. Eisenhower est obligé de céder, même au tout début janvier, quand, comme une sorte de sequel, comme on dirait, de la bataille des Ardennes, les Allemands attaquent un petit peu au nord de Strasbourg, en Alsace. Mais là aussi, ça ne durera pas longtemps.
Alors ça, en tout cas, à ce moment-là, nous sommes en janvier 45, on n'est plus qu'à quelques semaines de la chute du Troisième Reich. Mais ça a eu quand même des conséquences importantes. Certes, c'est une défaite, bien sûr, prévisible, me dites-vous, au fond, de Hitler, qui a peut-être surestimé ses forces. Mais ça a quand même retardé l'offensive alliée à l'ouest, hein, qui était prévue pour le 19 décembre. Elle a dû être retardée, si bien que ça a permis, de l'autre côté, à l'est, à Staline, de prendre de l'avance dans son avance sur l'Allemagne. Ça a eu des conséquences importantes quand même à des Ardennes, Laurent Henninger.
Je dirais que ça a des conséquences importantes, mais pour la durée de la guerre, pas pour l'après-guerre. Je m'explique. Je pense pas que ça ait permis à Staline et à l'armée rouge d'avancer plus loin que ce qui était prévu. Je pense que de toute façon, les Américains et les Soviétiques avaient un accord en béton armé pour se séparer, pour se diviser, se répartir l'Allemagne selon des lignes déjà préétablies à l'avance. Donc de toute façon, ça, je pense pas que ça aurait changé grand-chose pour le monde de l'après-guerre et de la guerre froide. En revanche, ça a retardé considérablement, de plusieurs semaines en tout cas, l'offensive des alliés occidentaux en Allemagne et donc l'ouverture des camps. La libération des camps de concentration, et ça, ce que tout le monde oublie, c'est que c'est dans la dernière année du régime nazi qu'il y a eu le plus de morts dans les camps de concentration. Et si cette offensive avait pu arriver plus tôt, on aurait pu épargner des vies.
Merci Laurent Henninger. Je rappelle que vous avez dirigé le livre collectif « Histoire militaire et sciences humaines » publié aux éditions Complexe. Vous êtes également un des auteurs du dictionnaire de stratégie dirigé par Thierry de Montbriard et Jean Klein, publié aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre deux extraits de Bastogne, l'épisode de la série américaine « Band of Brothers » réalisé par Tom Hanks et Steven Spielberg, disponible en coffret de 6 DVD aux éditions Warner Studios. Je rappelle que pour en savoir plus, pour avoir d'autres renseignements, vous pouvez contacter le service des relations auditeurs en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Florence Lambollet et Antoine Viossa, documentation et archivina.